explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est un petit pays à peine plus grand que la Suisse qui concentre 7 des 14 plus hauts sommets de la planète. À sa frontière se dresse le plus élevé d'entre tous. Bienvenue au Népal. Des alpinistes du monde entier se pressent sur cette terre himalayenne pour tenter de se hisser sur le toit du monde. Ils sont des centaines à y parvenir chaque année grâce à l'aide des Sherpas. Mais à ce jour, une trentaine de Népalaises seulement a atteint le sommet de l'Everest. Pour accomplir cet exploit, ces femmes ont dû en réaliser un autre, plus difficile encore. Elles ont dû braver le poids des coutumes et résister à la pression sociale. Au Népal, les femmes sont loin de bénéficier des mêmes droits que les hommes. Prendre la voie des cimes est une façon de faire évoluer les mentalités. Dans un livre intitulé « Les Népalaises de l'Everest » paru aux éditions Glénat, la sociologue Anne-Benoît Janin raconte le parcours et les combats de ces femmes. Cet après-midi, Anne-Benoît Janin nous emmène sur le toit du monde à la rencontre de ces Népalaises qui font rimer ascension avec émancipation. Et en fin d'émission, nous resterons dans le thème avec la journaliste Lucie Azema qui viendra nous présenter son livre « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser avec à la technique Nicolas Delmas. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tenzing, leur compatriote, son camarade de cordée, le néo-zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes.
Nous étions en 1953, Tenzing Norgay et Edmund Hillary réussissaient à atteindre le sommet de l'Everest et c'était une première. Bonjour Anne-Benoît Janin.
Bonjour.
En 1953, ce sont deux hommes qui marchent sur le toit du monde. Qui sera la première femme à atteindre le sommet de l'Everest ?
Passanglamu Sherpa est la première femme donc qui a...
La première Népalaise.
La première Népalaise, bien sûr, ouais. Qui a atteint le sommet au bout de 4 tentatives. Ouais. Donc, elle a dû braver beaucoup d'interdits, parce que déjà au Népal, on n'a pas l'habitude de... Une femme n'a pas l'habitude de quitter son foyer. Mmh. Et ensuite, le gouvernement népalais, ne considérant pas qu'une femme devait aller à l'Everest, l'a fait payer des frais comme si elle était une étrangère.
Oui, c'est ça. On lui a plutôt mis des bâtons dans les roues. Nous étions en 1993. Ça, c'était la première népalaise. Je vous demandais la première femme à avoir gravi l'Everest.
Oui, bien eu. Donc, Lakpa Sherpa, c'est Lakpa Sherpa qui a donc été la première à monter au sommet et descendre vivante. Et depuis, elle a gravi 9 fois le sommet de l'Everest. C'est donc, elle détient les records du monde, mais elle est pratiquement inconnue.
D'accord. Alors ça, c'est la Népalaise suivante qui, elle, est redescendue. En fait, je m'attendais à avoir la réponse de la Japonaise en 1975. Cette première femme qui, 22 ans après les premiers hommes, japonaise Junko Tabei, oui. Qui, le 16 mai 1975, gravit pour la première fois l'Everest. Pour la première française, ce sera...
Christine Janin.
Christine Janin, avec laquelle vous n'avez, Anne-Benoît Janin, aucun lien de parenté. On le voit, hein, les femmes, ça a été plus long pour qu'elles puissent accéder à ce sommet. La place des femmes sur les montagnes n'a pas toujours été de soi pour tout le monde. On s'en rend compte dans l'extrait de cette interview de l'alpiniste et écrivaine Claude Cogan, interrogée en 1953 sur la RTF, alors qu'elle revient d'une expédition dans l'Himalaya.
Le paysage du camp de base était assez sévère, car nous installons ce camp-là à la limite de la neige. Et il n'y a à ce moment-là plus de verdure, plus d'arbres. Nous sommes installés sur la pierraille.
Et quelle était la vie dans ce camp de base? Vous étiez la seule femme de l'expédition? N'étiez-vous pas appelée à exercer vos talents ménagers? Je pense à ceux de cuisinière en particulier.
Non, pas du tout. J'étais partie en titre d'alpiniste. Et les rôles ménagers étaient remplis par les Sherpas. D'ailleurs, ces hommes sont vraiment admirables.
Les femmes, et quel accueil vous ont-elles réservé?
Un accueil très chaleureux, parce que d'ailleurs, elles étaient très étonnées de voir une femme partager la vie des hommes et de vivre avec eux sur le même pied d'égalité. Et alors, au retour, elles ont eu pour moi beaucoup d'admiration.
Comment vous témoignait-elle cette admiration ?
Eh bien, elle me souriait, elle s'approchait de moi, elle me touchait, elle me massait les mains quand elle pensait que j'avais froid. Enfin, elles avaient des marques d'amitié très chantées.
Au début des années 1950, il ne paraissait pas déplacé de demander à une alpiniste de retour de l'expédition en Himalaya si c'était bien elle qui s'était occupée de faire à manger. Puis on notera aussi ce que dit Claude Cogan du regard des femmes népalaises. Donc au début des années 1950, il semble que pour elles, c'est assez inattendu, très surprenant que des femmes soient alpinistes.
Il faut bien comprendre qu'au Népal, une femme, elle n'est destinée qu'à élever ses enfants, à se marier, à élever ses enfants. Elle ne doit pas quitter son foyer. Donc partir en montagne, c'est partir à l'aventure, c'est une mission impossible. C'est, ouais. Voilà, c'est pas du tout dans l'ordre des choses.
Ouais. Alors que pourtant, le Népal est quand même le pays des plus hauts sommets de la planète. Elles vivent au milieu de ces montagnes.
Et oui, mais regardez, même les Népalais ne vont pas vraiment au sommet. Ils commencent à y aller cette année au K2. Ils ont fait une première en hiver, mais c'est vraiment pas. Ils sont souvent seconds. Ils préparent le terrain, ils permettent l'ascension de l'Everest, mais souvent ils n'y vont que parce que maintenant ils y vont de plus en plus. Mmh. Mais ce n'est pas leur raison première. Ils y vont pour l'argent, pour gagner leur vie.
Ouais. Mmh. Finalement, il y a une sorte de respect. C'est dans leur culture, ces montagnes, ils les laissaient à distance pendant des centaines et des centaines d'années. Et
ce sont des dieux, en fait. Ouais. L'Everest, c'est Sagarmatha. Donc du coup, on ne monte pas sur les dieux. Il y a des montagnes sacrées, d'ailleurs. Moi, j'ai fait le tour du Mont Kailash, qui est une montagne sur laquelle on ne doit pas monter. On ne doit pas la gravir.
Alors Anne-Benoît Jeannin, les inégalités hommes-femmes au Népal ne vous ont pas sauté aux yeux tout de suite lors de votre premier voyage à Katmandou. Vous avez séjourné dans cette ville qui est la capitale du Népal et au contraire, vous avez trouvé le rapport entre les hommes et les femmes très détendu, très apaisé.
Tout à fait. Moi, je suis particulièrement grande. Les Népalais sont plutôt petits. Et c'est vrai que généralement, dans une foule, on me regarde. J'ai l'habitude, dans tous les cas, qu'on me regarde. Et au Népal, je passe un peu inaperçu, même carrément inaperçu. Et ensuite, dans les treks, les hommes jouent avec les trekkers vont jouer avec une femme du village au ballon. Un homme va toucher les cheveux d'une trekkeuse. C'est pas en lui faisant des tresses, en rigolant, c'est pas du tout gênant.
Il n'y a pas d'agressivité.
Non, il n'y a pas ce regard sexué, je trouve.
Mais au fil de vos voyages au Népal, quand vous vous éloignez de Katmandou, que vous traversez les campagnes, là, tout d'un coup, vous vous dites qu'il y a quelque chose. Vous commencez à vous interroger, à vous poser des questions.
Ouais, c'était durant un trek au Mustang. D'un seul coup, je me dis, mais où sont les hommes ? Parce qu'en fait, les femmes sont dans les champs, les femmes sont à la cuisine, les femmes lavent le linge. Et les hommes, il y en avait très peu. J'en ai vu quelques-uns s'occuper de chevaux. Et de fil en aiguille, après quand j'ai eu l'idée de faire ce film, je me suis informée davantage. Et les hommes ne sont pas en train de dormir pendant que les femmes travaillent, non, ils sont dans les pays du Golfe. Ils ont été chercher du travail parce que le Népal est un pays très très pauvre, un des plus pauvres du monde, et qu'en fait il n'y a pas de travail au Népal pour eux, et ils vont chercher ailleurs de quoi faire nourrir leur famille.
Et vous vous interrogez aussi sur ces femmes qui font tout dans les campagnes, avec finalement peu de reconnaissance, qui sont à la fois mères, qui sont filles, mais qui sont rarement femmes, finalement, en tant que telles.
Ouais, leur devenir, leur sens d'existence, c'est de s'occuper de leur foyer, et surtout parfois dans des conditions où l'intimité féminine... Enfin, on imagine, moi, un jour, visiter une petite masure, et il y avait donc deux lits, et ils vivaient à cinq, je ne sais pas comment, c'était les parents, les frères, l'oncle... Donc on imagine comment se construire dans ces conditions.
Alors quand vous entendez parler de Pasang Lamu Sherpa, cette première népalaise à avoir atteint le sommet de l'Everest en 1993. Vous vous demandez comment cette femme a osé braver tous les interdits qui au Népal maintiennent les femmes dans leur rôle de mère et de femme au foyer. Cette femme est devenue une icône absolue au Népal aujourd'hui. Qui était-elle exactement ?
Alors c'était quand même une femme qui avait déjà fait preuve de beaucoup de courage parce qu'elle avait dit non au mariage que ses parents lui avaient proposé.
À 14 ans, on veut la marier un peu plus tard.
C'était plus tard. Ouais, c'est plus tard. Mais du coup, elle est partie avec celui avec qui elle avait envie de se marier. Et donc ils ont eu des enfants, ils sont mariés. elle était assez exceptionnelle parce qu'elle après, donc elle a monté une agence de trekking avec son mari et elle a ensuite monté sa propre affaire. Elle importait des bouteilles parce que quand on va en trek, on a besoin de bouteilles de gaz et on peut pas les emmener dans l'avion. Donc elle avait créé tout un système de pour permettre aux alpinistes d'avoir du gaz. Elle était déjà chef d'entreprise.
Ouais. Voilà. Ça paraît anodin de le dire comme ça, mais ça se fait pas du tout en fait. Une femme qui travaille, qui fait des affaires au Népal, surtout dans les années 90, lorsqu'elle fait ça. Alors, elle va gravir le Mont Blanc, elle voyage, elle va gravir le Mont Blanc avec d'abord son avec son mari en France. Elle voit qu'il y a des femmes alpinistes autour d'elle, dans le monde. Et petit à petit, cette idée de « et pourquoi aucune Népalaise à ce jour ?» Nous étions encore une fois dans les années 90. Aucune Népalaise n'a atteint le sommet de l'Everest. Elle se met en tête de le faire. Au départ, c'est un peu un défi personnel. Et puis après, ça la dépasse. Elle se rend compte que, symboliquement, pour toutes les femmes de son pays, c'est important.
Elle le fait pour deux raisons. Elle le fait pour les femmes, leur dire qu'elles peuvent sortir de chez elles, elles peuvent vivre des aventures. Et ensuite, elle le fait aussi pour sa communauté Sherpa. Parce qu'au Népal, il faut savoir qu'il y a plus de 60 ethnies. Et il y a des enjeux forts de reconnaissance de sa propre ethnie. Ouais. Et depuis que maintenant, les Sherpas sont très considérés au Népal.
Alors, les Sherpas, on a en tête, ce sont les porteurs qui aident les alpinistes, mais c'est aussi avant tout une ethnie.
Tout à fait, c'est les peuples des montagnes en fait.
Bien sûr, voilà. Elle appartient à cette ethnie, des montagnes.
Ils se différencient aussi par leur religion, ils sont bouddhistes.
Ouais. Alors elle va faire plusieurs tentatives, 89, 91, 92, 93. En 93, enfin, elle atteint le sommet de l'Everest. Vous nous l'avez dit, elle n'est pas du tout aidée et soutenue par son gouvernement qui lui a fait payer le prix fort pour avoir le droit de participer à cette ascension. Et malheureusement, elle va y laisser la vie.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où elle a gravi l'Everest, les conditions pour monter, gravir l'Everest, c'était pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, il y a des routeurs. Enfin, on connaît vraiment bien la météo. On connaît les fenêtres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouchons à l'Everest parce que tout le monde y va en même temps. Alors qu'à l'époque, c'était très incertain. Ils partaient parce qu'ils étaient prêts. Ils étaient acclimatés et donc ils y allaient. Et là, ils se sont fait avoir par le mauvais temps. On ne sait pas très très bien, mais apparemment, il y avait son Sherpa qui était malade et elle ne l'aurait jamais laissé tout seul là-haut.
Donc, son Sherpa, le porteur qui l'accompagnait, en fait, au moment de la redescente, au lieu de redescendre avec tous les autres, ils établissent un campement de fortune dans la pente.
Ouais. Et comme elle avait déjà passé une nuit à 8000, ce qui est extrêmement dur, elle a dû se dire que c'était possible. Et en fait, il a fait tellement froid, il fait extrêmement froid. Il faut connaître les conditions. C'est enfin, plus que glacial, quoi. C'est pour survivre une nuit pareille, il faut être très très fort.
Ouais. Et là, en plus, comme les conditions ne s'améliorent pas pendant plusieurs jours, les secours ne peuvent pas intervenir. Donc, elle va mourir là avec ce Sherpa dans la pente en redescendant. Son corps est redescendu. Ouais. Déjà, c'est un signe important,
C'est son âme, son mari. Ouais. C'est exceptionnel de redescendre un corps. Certains le racontent, on peut croiser quand on monte un corps gelé, parce que c'est trop, trop difficile de redescendre un corps. C'est lourd, donc c'est très compliqué. Donc là, son mari a fait ça pour elle.
Et aujourd'hui, Pasang Lamu Sherpa est devenu une légende au Népal. À Katmandou, il y a une statue de cette femme en pied. Elle a donné son nom à des places, des rues.
Il y a même un timbre.
Un timbre.
Un grain de riz, une sorte de riz.
C'est ça. Et elle a influencé toute une génération de femmes.
Oui, c'est clair. À partir de là, d'autres personnes, pas tant que ça, parce qu'elle a mis du temps quand même après pour que. Voilà. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'elle a, comme dit, elle a libéré, elle a ouvert une porte, une brèche pour que les femmes puissent faire d'autres choses.
Elle voulait inspirer les Népalaises pour qu'elles aillent en montagne si elles le souhaitaient, pour qu'elles soient plus libres en tout cas. Et elle a atteint son but. Vous allez, Anne-Benoît Janin, nous emmener à la rencontre de ces Népalaises qui, comme Pasang Lamu Sherpa, ont bravé les traditions pour prendre la voie des cimes et faire évoluer les mentalités. Le temps d'un bivouac sur le toit du monde avec des femmes qui ont fait de l'Everest leur tremplin.
And it gets deeper.
River Deep, Mountain High, c'était Tina Turner sur France Inter, le temps d'un bivouac.
En tant que Népalaise, la condition de la femme, même si on est au 21e siècle, il faut toujours se battre pour l'égalité. Si on regarde en ville, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des études. Si on va dans les villages ou dans les lieux éloignés, là, il n'y a pas de santé, pas d'instruction, pas de droits pour les femmes. Seulement les garçons vont en ville. Oui, je pense que nous sommes encore dominés par les hommes et le pays, tout le monde.
Maya Gurung, une des Népalaises que vous avez interviewée pour votre documentaire Les Belles Envolées, Anne-Benoît Janin. Parce qu'avant d'écrire le livre Les Népalaises de l'Everest, vous avez réalisé ce film documentaire sur ces femmes qui se sont lancées dans l'ascension des montagnes. Et comme le disait à l'instant Maya Gurung, dans les villages, les petites filles sont loin de partir avec les mêmes chances que les petits garçons au Népal.
Il y a une réalité au Népal qui est quand même très difficile à comprendre, c'est que les jeunes filles, les femmes n'ont d'identité que si leur père ou leur mari leur accorde. En fait, ils pensent à leur faire des papiers d'identité. Si elles n'ont pas ces papiers, elles ne sont rien. Elles peuvent disparaître, personne ne le saura. C'est donc, on a tout droit sur elles. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut savoir aussi qu'une femme, au Népal, quand elle se marie, elle va dans sa belle famille, elle vit dans sa belle famille, et elle est extrêmement soumise à sa belle famille. Elle doit s'occuper de son beau-père, de sa belle-mère, faire la nourriture, l'entretien, elle fait un peu la boniche, entre guillemets. Ouais. Et il y a des traditions quand même assez rudes, puisque dans certaines ethnies seulement, pas dans toutes heureusement, quand elle se marie, elle doit boire l'eau dans laquelle son beau-père s'est lavé les pieds. Enfin, il y a des choses un peu avilissantes comme ça.
Qui sont symboliquement très fortes. Vous le dites dans votre ouvrage, la première cause de mortalité chez les femmes de 15 à 49 ans, c'est le suicide. Parce que finalement, il n'y a pas d'espace pour exister quand on est une femme dans ces conditions.
Et c'est très très troublant, parce que quand on se promène au Népal, quand on fait des treks, on a l'impression qu'elles sont très heureuses. Quand elles vous disent namasté, vous êtes réjouis, parce qu'elles nous donnent une joie de vivre qui est étonnante. Ouais. Et quand on connaît la difficulté dans laquelle qu'elles traversent, il faut savoir aussi que 20 000 bébés meurent par an de diarrhée. Donc on imagine ce que c'est la condition de vie là-bas, et pour les femmes d'autant plus, parce que c'est elles qui portent tout.
Bien sûr, le Népal est un des pays les plus pauvres du monde, rappelons-le. Alors, la plupart des petites filles au Népal ont du mal à se projeter, et on le comprend avec les quelques éléments que vous venez de nous donner, et à imaginer ce que sera leur vie d'adulte après le mariage. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré, une chercheuse, une géographe, Lise Landrin, qui emploie une expression terrible. Elle vous dit, pour elle, la vie est comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'après le mariage, encore elles arrivent à se projeter avant le mariage, qu'elles vont faire. Mais après le mariage, il n'y a plus que la mort.
Mais en même temps, vous savez, ce n'est pas si loin chez nous aussi, il n'y a pas si longtemps. Encore aujourd'hui, une femme, elle a envie, parfois elle n'a plus envie de travailler pour s'occuper de son enfant, elle veut rester à la maison, sauf qu'on vit de plus en plus vieux aussi maintenant, nous en France. Donc on a une vie aussi après avoir élevé nos enfants. Donc du coup, on n'a pas la même notion des choses. Mais je pense que c'est le poids des traditions et elles ne se voient. Elles ne peuvent pas se projeter autrement que comme ça.
Et cette chercheuse, Lise Landrin, vous a raconté une recherche qu'elle a faite avec des jeunes filles, justement, qu'elle avait rencontrées dans les villages. Elle leur proposait d'écrire une poésie pour leur permettre de parler de leur quotidien de façon un peu détournée. Et une de ces petites filles, Sagina, qui appartient à une famille de basse caste. Alors, il y a 12 enfants dans cette famille, mais ce sont 12 petites filles. Et pour la famille, c'est ce qu'elle vous explique. Cette chercheuse, c'est une malédiction. Le père a d'ailleurs déserté, il a divorcé, il a épousé une autre femme pour avoir des fils. Donc quand la chercheuse a demandé à Sagina de décrire avec un poème ce qu'elle ressentait, elle a écrit ce poème, chanté ici par ses camarades.
Je lave des vêtements pour la famille, tant de vêtements. Mais un jour, je laisserai le savon glisser pour aller au-delà des 9 collines. Parce que je suis une fille, je ne sais pas quel chemin emprunter. Comme les feuilles de bananier, je chavire à gauche, à droite, mais je suis perdue et je ne connais pas le chemin. Si je meurs, brûle-moi dans la boue et fais-y pousser une fleur. Mais quand la fleur s'ouvrira, mets-la dans tes cheveux, mais ne pleure pas en te souvenant de moi.
Merci à Cléo pour la traduction. Nous allons mettre l'intégralité du poème sur la page Facebook du Temps d'un bivouac. Il est triste, il est émouvant ce poème de la petite Sagina.
Oui, ça c'est sûr que je trouve que ça illustre très très bien le destin de ces femmes quand elles en ont conscience. Voilà, c'est.
Et la lucidité très petite à quel point cette fille a intégré que son destin était incertain et probablement pas très réjouissant.
Oui, c'est sûr.
Alors, toutes les filles ne vont pas à l'école au Népal ?
Alors, en fait, il y a quand même beaucoup d'écoles dans les villages. Ils sont très mélangés, mais dès qu'ils grandissent, ils n'y vont plus. Enfin, c'est pour les petits. Donc, ils apprennent les rudiments, un peu à écrire et à lire. Et puis après, ceux qui ont les moyens vont, ou qui ont de la famille à Katmandou, vont pouvoir aller à Katmandou et là, suivre des études. Mais ça coûte très, très cher. Voilà, ce sont des écoles privées et ça coûte souvent beaucoup trop cher pour les familles.
Et parmi les Népalaises devenues alpinistes que vous avez rencontrées, Anne-Benoît Janin, certaines ont su s'opposer à leur famille, à cette existence déjà écrite qui ne leur convenait pas. Et pour gagner leur liberté, elles n'ont pas hésité à s'opposer. À l'image de Maya Gurung que vous avez interviewée.
Quand j'avais 14 ans, j'ai décidé que je voulais être libre. Parce que quand j'avais 14 ans, mon père a voulu me marier avec mon cousin. Donc à ce moment, je ne voulais pas me marier. À 14 ans, je ne voulais pas avoir d'enfant et m'occuper d'une famille. Je ne voulais pas de ça. J'ai décidé de fuir la cérémonie de mon mariage et de m'échapper de chez moi. Et je ne savais pas où aller et quelles sortes de choses je voulais. Et quand je suis revenue chez moi, mon père avait déjà, vous savez, il m'a dit, tu n'es plus.
Il est difficile pour Maya Gurung de raconter exactement ce que lui a dit son père, Anne-Benoît Janin. C'est encore trop dur pour elle. Vous l'avez appris par la suite, ce que lui a dit son père.
Tout à fait. En fait, son père a brûlé les photos d'elle. Il a fait la cérémonie comme si elle était morte. Il l'a reniée, en fait.
Et quand elle est revenue, il lui a montré les images de la cérémonie qui avait eu lieu, de son enterrement symbolique, pour bien lui signifier qu'elle n'était plus pour lui qu'elle n'existait plus.
Par contre, une fois qu'elle a fait l'Everest, maintenant, elle est vénérée dans son village. Hein.
Alors c'est ça, mais ça se retrouve, parce qu'elles sont plusieurs, ces femmes que vous avez rencontrées, à s'être opposées de façon très dure avec leur père, aussi à leur mari. Certaines ont divorcé, certaines ont un peu entamé une sorte de bras de fer en les mettant devant le fait accompli. D'autres ont été moins directes, se sont entraînées en cachette pour gravir l'Everest. Mais à l'arrivée, une fois qu'elles ont réussi, tout a changé pour elles. C'est-à-dire que leur père, leur communauté, elles sont devenues des héroïnes.
Tout à fait. Il faut savoir que elles sont quand elles redescendent, elles sont considérées. Enfin, on leur fait l'équipe des sept népalaises qui ont fait l'Everest. Il y a eu une équipe qui a été créée par deux Sherpas d'ailleurs. Quand elles sont revenues, qu'elles avaient réussi cet exploit, il y a des familles de tout le Népal qui sont venues pour les honorer. Mmh. Donc elles sont vraiment aujourd'hui encore. Elles diffusent sur Facebook. Parce qu'elles sont très réseau, elles discutent le nombre de cérémonies et d'honneurs qu'on leur rend. C'est vraiment elles changent de statut en fait. C'est ça qui est important de comprendre, c'est cet Everest, l'effet leur donne une autonomie. Elles peuvent voyager, elles deviennent des modèles. Elles sont vraiment elles changent de statut.
Ouais. Ces grimpeuses ont conquis bien plus que des sommets. Hein. L'Everest leur a servi de tremplin pour faire évoluer la place des femmes au Népal. Vous allez nous l'expliquer, Anne-Benoît Jeannin, dans la suite de ce temps d'un bivouac sur les pas de ces Népalaises qui déplacent littéralement des montagnes dans leur pays.
Bang, tu m'as touché. Aux ailes, je suis blessée. Et sans un remords, tu me regardes couler. Dans ce corps à corps, j'esquive les coups et j'exprime très fort mon désaccord.
D'accord. Non. Plus d'accord.
C'était Pas d'accord, chanté par Jane Birkin sur France Inter.
Comment ça se passe pour le camp 3 ?
Ils sont à mi-chemin du camp 3 et ils mettent les cordes en place.
Ok.
Et qui ira au camp 3 ?
Moi, Wang Shu, nous serons 4 Sherpas en tout.
Nous avons du respect pour l'Everest. C'est notre mère. Si cette montagne n'existait pas, imaginez la vie que nous aurions. Nous considérons la montagne comme un symbole divin. Nous lui chantons une chanson dont les paroles disent « Je suis venu à toi, je t'en prie, aime-moi ». Nous récitons régulièrement le mantra de la compassion « Om Mani Padme Hum ».
Extrait du documentaire Sherpa, les vrais héros de l'Everest. Alors on l'a dit, on a donné au nom des porteurs le nom de Sherpa, mais avant tout, Sherpa c'était une ethnie, et c'est toujours une ethnie au Népal. On l'entend, ce lien à la montagne, on lui fait des prières, on lui adresse des prières. Et les alpinistes que vous avez rencontrés, Anne-Benoît Janin, Sherpani, ont aussi ce rapport très vivant à la montagne.
Déjà, ils ont un rapport très vivant au divin. Ouais. Ils sont très superstitieux, ils font beaucoup de prières, ils sont très 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 croyants. Donc du coup, la montagne pour eux, c'est donc des dieux. Donc quand Dakpa Sherpa raconte, quand elle va, parce qu'il y a deux possibilités pour monter à l'Everest, soit du versant sud par le Népal, soit du versant nord par le Tibet. Et quand elle aime pas aller par le versant nord parce qu'elle a l'impression qu'elle est sur le dos de la déesse et que la déesse elle aime pas avoir quelque chose dans le dos. Donc elle préfère quand elle passe par le devant de la déesse.
Par la face sud, voilà. Quand elle lui passe sur le visage. Les porteurs Sherpa, là, on en entendait quelques bribes, ils ont un rôle indispensable sur cette montagne. On minimise souvent, on leur donne pas la place qu'ils méritent, parce que sans eux, bon nombre d'alpinistes n'y seraient jamais arrivés au sommet de l'Everest.
C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des alpinistes qui étaient extrêmement forts, mais maintenant, l'Everest, une sorte de voyage, comme on voudrait aller sur Mars, on va aller Everest, quoi. Donc c'est quelque chose d'un peu commercial. Et c'est vrai qu'ils équipent toute la montagne, la cascade de glace avec les échelles, les cordes fixes, ils montent les bouteilles d'oxygène, ils montent les tentes. Voilà, après, la personne qui monte, il faut qu'elle s'acclimate et qu'elle marche, point, c'est tout. Quoi.
Ouais. Alors c'est le salaire de la peur, c'est le salaire de la peur pour ces Sherpas. Vous le dites, ils sont plus payés que les instituteurs.
Oui. Tout à fait. Ouais. Oui. En même temps, ils ont fait une grosse grève en 2014, je crois, parce que il y avait eu des morts et que il n'y a pas de sécurité sociale là-bas. Il n'y a pas. Donc, du coup, quand un Sherpa meurt, il fait vivre toute sa famille. S'il meurt, il y a une économie pour les familles qui est terrible. Donc, du coup, il y a une vraie. C'est complexe.
Et on ne compte pas encore de femmes parmi les porteuses
si,
de femmes Sherpas.
Mais si, Dawa Yangzun, elle le raconte. Elle dit qu'elle est montée à l'Everest. La première fois, elle était guide d'altitude. Et c'était beaucoup plus dur de faire le travail de porteur que de monter à l'Everest. Elle sourit un petit peu d'ailleurs en le disant avec un peu de malice.
Ouais. Certaines sont devenues guides et pour elles aussi, là encore c'est un combat parce que pour beaucoup de gens, c'est pas un métier de femme guide.
Non, c'est pas métier de femme, mais il y a un mouvement en tous les cas parce qu'ils réalisent qu'en fait avoir un guide femme c'est aussi sympathique et c'est apprécié aussi par les étrangers. Mais faut savoir une chose, c'est que moi ce que je constate c'est que soit elles sont il y en a une qui est divorcée, mais sinon elles sont toutes mariées à des étrangers. Ouais. Voilà, elles peuvent pas se marier là encore alors qu'elles ont acquis leur lettre de noblesse, elles ont fait leurs preuves, elles peuvent pas être mariées à un Népalais.
Ouais. Alors il y a eu des initiatives et notamment une relativement récente, hein, je crois que c'était en 2008, vous l'évoquiez. Alors là, ça a presque fait doubler le nombre de femmes en une seule fois népalaises qui avaient atteint le sommet. Une expédition de 10 femmes avec une particularité. Hein,
créée de toutes pièces, c'est deux Sherpas qui ont eu l'idée pour dire que les hommes aussi sont pour l'égalité, pour que les femmes s'émancipent. Et donc ils ont créé une équipe de 10 femmes, toutes ethnies confondues, tout niveau d'études confondues, et elles sont toutes arrivées au sommet. Donc du coup, on est passé de, je crois, de 15 à 20. 25 d'un seul coup le nombre de femmes au Népal qui avaient fait l'Everest.
Ouais, alors là aussi, on a essayé de les en dissuader, leur dire ça va être trop cher, vous n'êtes pas assez entraînés, vous n'avez pas l'argent, vous
allez mourir.
Pas... Ouais, c'est ça.
On les a vraiment, c'est extrêmement. Elles expliquent que presque chercher l'argent pour constituer le pactole qui va permettre d'aller à l'Everest, c'est aussi presque plus difficile que de monter à l'Everest. Ouais.
Mais après avoir réussi ça, elles se sont lancées dans l'ascension d'autres sommets à travers le monde. Elles font évoluer les mentalités dans leur pays. Et pour Shaili Basnet, qui est l'une de ces 10 femmes, les choses n'avancent pas assez vite.
Junko Tabei, la première femme au monde à avoir gravi l'Everest, elle l'a gravi en 1975. Et je crois qu'elle avait une petite fille de 2 ans quand elle a fait son ascension. Au XXIe siècle, les gens nous demandent toujours, une fois que vous serez mariés, que vous aurez des enfants, serez-vous toujours aussi engagés? Ces héroïnes au siècle dernier, après avoir eu des enfants, elles ont quand même escaladé ces montagnes et ont montré au monde que c'était possible, avec un corps de femme, un cerveau de femme, avec de la force. Alors quand je pense à Pasang Lama Sherpa et Junko Tabei et au fait d'être mère et alpiniste, je suis très influencée par elles. Junko a grimpé après avoir eu 70 ans. Pasang Lama Sherpa a eu 3 enfants et elle est allée à l'Everest 4 fois. Qui a le droit de nous dire d'arrêter ou de dire aux jeunes filles de tout accomplir avant de se marier? Je crois vraiment qu'il y a des modèles et des traces à suivre, pas seulement dans les montagnes, mais dans la vie de tous les jours.
Cette interview de Shaili Basnet conclut votre documentaire, Anne-Benoît Jeannin. Elle est pétillante, cette femme, très volontaire. Alors, en plus, je crois qu'elle fait du stand-up. Enfin, elle a une vie publique.
C'est une humoriste. Elle a découvert ses talents, le talent d'humoriste en gravissant l'Everest. Elle faisait rire toute son équipe pour leur donner du courage.
Ouais. Mais c'est pas anodin, parce que ça veut dire que la voix de ces femmes porte. Elles deviennent des modèles pour les jeunes filles dans leur pays. Et c'est pas une formule quand elle dit on va faire bouger le monde, mais pas que dans le domaine de l'alpinisme. Il y a des exemples très concrets.
Alors Maya Sherpa, par exemple, quand elle a eu son enfant, elle a une petite fille, elle a arrêté l'alpinisme pendant quelques temps, et après, quand elle l'a repris, elle s'est dit, il faut que je fasse une belle montagne. Parce que, en fait, au Népal, on pense qu'une femme qui a accouché, elle a perdu des muscles. On a l'impression que maintenant, après, elle est affaiblie et qu'elle ne pourra plus être la même. Et elle a fait le K2, elles étaient 3, donc qui sont dans le livre, et elles ont fait le K2, elles ont été les premières à faire le K2, et elle a prouvé à toutes les femmes que même après avoir accouché, on peut gravir des montagnes.
Sachant que le K2, c'est encore plus difficile que l'Everest, même si la montagne est un peu moins haute.
C'est plus technique et plus dangereux.
Il y a beaucoup plus de morts sur le K2, parce que il faut le dire, c'est un vrai exploit physique. Aujourd'hui, on grimpe pas l'Everest facilement, ça reste une vraie prouesse.
Il y a un manque d'oxygène, on risque un œdème cérébral, un œdème pulmonaire. Moi qui suis allée à presque 6000, j'ai cru que j'avais une méningite, j'ai été malade comme un chien. En plus, plus on monte, moins on a toute notre tête, c'est très bizarre. L'altitude, ça fait quelque chose de très très bizarre.
Ouais, c'est ça, on perd un petit peu la conscience.
On n'est pas en état normal.
Ouais. Alors ces femmes se sont mobilisées, notamment après le séisme de 2015 par exemple, pour reconstruire le pays. Il y a plein de domaines où elles interviennent, notamment alors il y a une partie des femmes au Népal qui sont victimes de traite des femmes, on en fait des prostituées, et là aussi elles ont réussi à intervenir.
En fait toutes celles que j'ai interviewées, elles ont envie de, une fois qu'elles ont fait l'Everest, elles ont envie de poursuivre et de remercier en fait en ayant une action humanitaire. Et c'est vrai qu'au Népal il y a beaucoup de traite des femmes, donc même au sein de leur pays, mais surtout elles partent à l'étranger, les parents les donnent, les vendent, pour ne serait-ce parce qu'ils peuvent pas les nourrir, donc puis une fille est moins considéré qu'un homme. Donc il y en a qui se sont investis notamment contre la traite des femmes, et notamment Maya et Shaili.
Ouais. Qui en ont fait des alpinistes, en fait, de ces femmes rescapées de cette traite des femmes. Elles en ont fait des alpinistes.
Elles ont, avec la montagne, elles leur ont redonné confiance en elles, avec l'effort physique, parce que ça a énormément de vertus. Je suis la première à le savoir. Et donc du coup, après, elles peuvent en faire leur métier. Donc elles ont vraiment une vraie action auprès de ces femmes.
Ouais. On parle souvent des alpinistes comme des conquérants de l'inutile. Les ascensions de ces femmes alpinistes sont loin d'être inutiles. Même certaines d'entre elles l'ont fait, n'avaient pas de goût spécial pour la montagne. Elles y sont allées parce qu'elles avaient des choses à revendiquer.
C'est vrai qu'elles ont toutes une motivation, mais il y en a comme plusieurs qui se sont découvert ce talent sans avoir eu envie de monter en montagne. C'est-à-dire que Maya Sherpa, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a commencé comme porteuse, et puis en fait, on a remarqué qu'elle était talentueuse, qu'elle qui a été très forte. Et du coup, souvent, les expéditions avec des étrangers, on valorisait ces femmes, alors on les encourageait à aller plus loin. Mais c'était pas forcément une vocation. Gravir l'Everest n'était pas leur intention de départ.
Quel regard les hommes népalais portent-ils sur ces évolutions ?
Alors, c'est difficile parce que je n'ai pas interviewé les hommes, donc je n'ai pas parlé à leur place. Mais ceux que je connais, il y a beaucoup d'hommes qui ont, au contraire, envie que les femmes s'émancipent parce que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Voilà. Les femmes qui... Et on voit bien, Lise Landrin en parle beaucoup. Il y a des problèmes d'alcoolisme, ils sont mariés trop jeunes. Les hommes ont trop de pouvoir aussi sur leurs femmes. Donc, du coup, elles sont trop... Enfin, pas assez affirmées et c'est pas bon, quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et alors, évidemment, il y a des gens très traditionnalistes, mais aussi des femmes. Et il y a des hommes qui sont beaucoup plus progressifs.
Ça a été difficile pour vous d'entrer en contact avec ces femmes, de les faire parler. Vous les avez senties libres, vraiment libres?
Ah ben, incroyable. Enfin, elles ont saisi l'occasion de parler. C'est plutôt ça, en fait. Elles ont été très vite... j'aurais envoyé un petit message par mail, je ne connaissais pas. Et grâce à des amis qu'on connaît là-bas, j'ai pu aussi en contacter d'autres. Et c'était extrêmement facile. Et puis elles ont très très vite compris le sens de mon film.
Merci Anne-Benoît Jeannin. Je rappelle le titre de votre livre, Les Népalaises de l'Everest, quand ascension rime avec émancipation, aux éditions Glénat. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent voir votre documentaire, ce film pour lequel vous avez interviewé ces femmes, on va mettre un lien sur la page du temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Restez avec nous, Anne. Les inégalités hommes-femmes n'existent pas seulement au Népal. Alors nous allons un peu balayer devant notre porte dans la dernière partie de l'émission avec la journaliste Lucie Azéma. Avec elle, nous allons détricoter le mythe de Pénélope qui attend sagement qu'Ulysse rentre à la maison quand il aura fini de vivre ses grandes aventures. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror. Of me broken across the world. I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. When it comes, like my oldest friend. Have you got a friend in the night? You said. Yeah. Lose Your Head, c'était London Grammar sur France Inter et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Il faudra bien, Pénélope, que tu achèves un jour cette tapisserie, et il te faudra alors choisir un époux parmi les prétendants.
Non, aucun d'entre eux ne peut être digne d'être comparé à Ulysse.
Mais
qu'y a-t-il, Télémaque?
Je vais à la recherche de mon père. J'irai chez les vieux compagnons d'Ulysse, à Pylos, chez le roi Nestor, à Sparte, chez Ménélas.
Ne me quitte pas. Ne pars pas. Reste auprès de moi. Il ne faut pas me laisser. Ulysse est loin de nous. La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches. C'est grâce à cette ruse que j'ai réussi à éterniser leur attente et que j'attends en toute sérénité.
Pénélope, seule, attendant désespérément son cher et tendre Ulysse, pendant que celui-ci voyage et vit de grandes aventures. Bonjour Lucie Azéma.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et voyageuse au long cours. Vous venez de publier « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ » aux éditions Flammarion. Un ouvrage dans lequel, justement, vous détricotez ce mythe de Pénélope pendant qu'Ulysse parcourt le monde et enchaîne les exploits. Pénélope, elle, demeure immobile. Vous aviez envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette image.
Exactement. On a vraiment Pénélope qui est la figure sédentaire du voyage, en fait, qui tisse et détisse son ouvrage. Elle reste fidèle, elle élève Télémaque. Et pendant ce temps, Ulysse court les aventures à travers le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fondé l'imaginaire collectif occidental, en tout cas, avec le mythe gréco-romain. Et c'est finalement quelque chose aussi qui montre que le voyage est un peu le rite de passage de la masculinité. Pour devenir un homme, on voyage, on part à l'aventure. Alors que la femme trouve sa valeur sociale plus dans l'attente et la fidélité au voyageur, justement.
Durant votre enfance et votre adolescence, vous vous êtes passionné pour les récits d'aventures de grands auteurs comme Jack London, Jack Kerouac, pour n'en citer que deux. Et assez rapidement, Lucie Azéma, vous vous êtes interrogée sur la façon dont ces auteurs parlaient des femmes et sur la place qui était faite aux femmes dans ces livres d'aventures.
Oui, totalement. C'est vrai que surtout Kerouac, ça a été un peu le choc qui a un peu déclenché aussi cette démarche.
Dans la Beat Generation, pas beaucoup de place pour les femmes.
Hein. Elles ont une place, mais très spéciale et complètement dévalorisée. C'est soit le faire-valoir du voyageuse, c'est un peu des sous-voyageuses, ou alors elles sont utilisées de façon très sexuelle par Kerouac et consorts. Et donc, c'est vrai que j'avais envie, en fait, en tant que grande dévoreuse de livres de voyage, de chausser un peu les lunettes plus critiques et de notamment féministes sur ces récits.
Alors, vous citez des phrases un peu terribles. Il y a plusieurs citations qui vraiment... Il y en a une de Malraux qui est assez célèbre. Je vous laisse la
oui,
citer.
Oui, les hommes ont des voyages et les femmes ont des amants. Et c'est vrai que c'est très décevant, mais ça illustre tout ça. C'est l'histoire aussi du marin qui a plusieurs femmes dans chaque port. Les femmes sont des ports d'attache, mais jamais elles ne partent.
Et puis vous notez que le mot aventurière, le mot même d'aventurière est connoté. En tout cas, il a longtemps été connoté péjorativement.
Oui, longtemps ça a été en fait la courtisane, enfin la prostituée de haut vol, en tout cas, et c'est... Il y a une différence sémantique entre aventurier et aventurière, ça c'est certain.
Ça fait que, jeune, quand vous lisiez tous ces récits, vous qui étiez dévoré par cette envie de voyage, Lucie Azéma, vous vous êtes dit, mais est-ce que vraiment je peux vivre une existence de voyage? Vous vous êtes posé cette question?
Oui, parce qu'on se sent très exclu. Alors quand on est enfant, petite fille, on a tendance en fait, s'identifier à beaucoup de personnages masculins, puisque c'est ce qui ressort le plus. Mais en grandissant, vraiment, j'ai eu un regard beaucoup plus distancié là-dessus. Et c'était très dur de ne pas me sentir exclue et même de ne pas me sentir insultée sur certains passages.
Et elle est essentielle, hein, cette question. Ça n'a rien d'anecdotique de se demander est-ce que les femmes, de la même manière que ces femmes qui gravissent l'Everest, est-ce que les femmes du monde entier ont le droit de voyager? C'est assez fondamental dans la façon de s'épanouir, dans la liberté.
Complètement. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que c'est un champ complètement sous-exploré dans les études féministes, alors que c'est vraiment, en fait, le voyage, c'est sortir. C'est sortir du foyer, c'est sortir de la maison. Et c'est vrai que même si en France, on n'a plus d'interdiction légale de voyager, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, ou même on voyait le Népal, où c'est pas simple d'avoir des papiers à soi-même. finalement, il y a aussi toujours une difficulté pour les femmes. Il y a aussi beaucoup d'injonctions aussi. Et c'est ça que, moi, ça me paraissait important d'essayer d'explorer ça, justement.
Alors, il existe quand même, hein, et vous le dites, des récits de voyages, d'aventures écrits par des femmes. Vous les avez découverts un peu plus tard que les premiers que l'on a cités. Quelles sont les voyageuses qui vous ont le plus marqué?
Alexandra David-Nil, c'est la patronne. Enfin, c'est celle qui a fait les choses les plus extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bérard, Schwarzenbach, ou Ella Maillard, elles ont vraiment fait des choses extraordinaires. Leur personnalité était toute différente et c'est aussi ça qui m'a intéressée, c'est de voir qu'elles avaient tout un parcours, des destinations différentes. Et ça m'a servi un peu comme des totems, en fait. Ça me permettait de me dire s'il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas moi, pourquoi pas d'autres, en fait.
Ces femmes, les quelques noms que l'on vient de citer et d'autres, elles ont été invisibilisées, gommées de l'histoire, ou est-ce que, objectivement, elles ont été moins nombreuses à voyager par le passé, les femmes?
C'est la réponse est entre les deux. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'elles ont été invisibilisées, mais de façon, comme l'histoire des femmes, de façon générale, a été invisibilisée. L'histoire, avec un grand H, c'est l'histoire masculine. Et en même temps, il ne faut pas non plus nier le fait qu'elles ont voyagé, mais pas autant que les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions en amont, beaucoup de difficultés. Il faut repousser beaucoup plus de murs.
Oui. Alors, dans les interdictions, vous le précisez, le domaine dans lequel les femmes ont été le plus longtemps persona non grata, c'est le monde marin.
Oui, totalement. Ça a été, en fait, longtemps, ça a été une superstition, c'est qu'une femme sur un bateau, ça porte malheur, en fait, comme les prêtres ou les lapins. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est le domaine le pire, je pense, pour les femmes. Et...
À tel point que certaines ont dû se déguiser en homme pour pouvoir embarquer.
Oui, la première femme à avoir fait le tour du monde, en fait, c'est Jeanne Barret qui a embarqué avec Bougainville déguisée en marin. En tout cas, elle se faisait appeler Jean Barret. Et elle n'aurait pas pu embarquer si elle avait été sous ses habits de femme.
Et puis, il y a cette phrase, alors c'est une petite pique, mais que vous donnez, les femmes et les enfants d'abord, hein, qui donnent encore une fois un petit peu la bravoure et la façon de se... C'est une phrase... Clairement, qui n'a pas tellement eu cours dans la marine, finalement.
Non, hein.
Les hommes se sont rarement sacrifiés pour les femmes.
Exactement. En fait, c'est que elle est connue parce que c'est l'ordre qui a prévalu sur le naufrage du Titanic, mais ça a été en plus imposé par la force des armes. Et en plus, dans l'histoire, c'est plus souvent les femmes, en fait, qui mouraient dans les naufrages parce qu'elles s'occupaient des enfants, elles avaient plus de vêtements, et donc c'était plus difficile de se jeter dans des canaux ou des choses comme ça.
Alors, vous, parlons quand même de vous, dans ces deux minutes qui nous restent, Lucie Azéma, grande voyageuse, votre premier grand périple à 19 ans. En Égypte, puis ensuite au Liban pendant 2 mois. Vous avez aussi séjourné plus longuement en Inde, en Iran. Vous êtes devenue une voyageuse au long cours. À quel regard vous avez été confrontée quand on est une jeune femme, que l'on veut voyager seule? Qu'est-ce que vous avez entendu?
C'est tu n'as pas peur, tu vas te faire violer ou il va t'arriver des choses. Et je pense que c'est vraiment l'injonction qui ressort le plus, hein, la mise en garde qui ressort le plus, et c'est souvent sous forme de bienveillance en plus. Mais c'est aussi, même s'il n'y a plus de verrou sur la porte pour empêcher les femmes de voyager, c'est aussi une façon de les dissuader, ça se concrétise un peu comme ça. Et c'est alors que finalement, être une femme en général, c'est dangereux aussi en France. Et le voyage, même au contraire, ne rend pas les choses plus dangereuses pour une femme.
Qu'est-ce que ces voyages vous ont apporté? Je pense à celui en Inde qui semble vraiment vous avoir remise en question en profondeur.
Oui, parce que vraiment l'Inde, ça a été l'éclatement de beaucoup de repères. Et je pense que c'est là que j'ai atteint ce que je voulais atteindre en voyage, c'est-à-dire vraiment la transformation, enfin vraiment une remise en cause personnelle très profonde. Et aussi le fait de pouvoir vraiment être seule dans un endroit où vraiment je n'avais aucun repère.
Vous conseilleriez quoi? Parce que vous dédiez votre ouvrage, j'ai plus la phrase devant les yeux, mais à toutes les voyageuses exploratrices, découvreuses qui ne se poseraient pas tant de questions si elles étaient des hommes. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui voudraient prendre la route?
Justement, de réfléchir si elles se posent des questions, parce qu'il peut y avoir des doutes qui sont légitimes, que les hommes peuvent aussi avoir, mais se dire, est-ce que si, à ma place, est-ce qu'un homme hésiterait exactement pour ces raisons-là? Si la réponse est non, alors c'est qu'il faut y aller.
Merci, Lucie Azéma. Je rappelle le titre de votre livre paru en début de semaine aux éditions Flammarion. Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ. Un grand merci à vous.
Merci.
Et puis merci pour les messages que vous nous laissez sur la page de l'émission sur Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.